Aujourd'hui, bien, nous allons parler sport, oui, avec M. Jean-Marie Carlier, qui est directeur du service de sport de l'Université Lille, le SUAPS. Bonjour M. Carlier.
Bonjour.
Donc un événement vous amène aujourd'hui à venir ici. Nous allons parler d'une conférence qui a lieu sur plusieurs jours, qui va s'achever dans 2 jours d'ailleurs, sur cette université, une conférence internationale.
Oui, tout à fait. Nous accueillons cette année la conférence annuelle de l'ENAS, qui est un groupement, une association européenne des services des sports. Cette année, c'est nous qui recevons le congrès. Donc, nous avons démarré hier soir par la soirée inaugurale avec les officiels. Et ben, aujourd'hui, on s'est mis au travail ça se terminera donc vendredi soir.
Donc, c'est la 17e conférence. L'ENAS a donc plus de 17 ans, je présume. Mm-hmm. Pourquoi cette année à Lille ?
Alors pourquoi à Lille ? Bah parce qu'on a postulé, puisque nous sommes membres de l'ENAS depuis 4 ou 5 ans déjà, et il nous semblait intéressant de prendre notre tour sur l'organisation de ce congrès. C'est un congrès qui a été créé, enfin c'est une association, European Network Association Sportive, qui a été créée par un Français à Chambéry il y a donc 17 ans. Et depuis ces 17 années, c'est la deuxième édition en France, donc c'est un retour en France après 17 ans.
Donc c'est pour l'Université Lille un moment de visibilité, c'est important pour vous ?
Oui, c'est important parce qu'au niveau du service des sports, on a en accord et en collaboration avec le président Rollet, développé sur l'international. Notre projet au niveau du service des sports, c'est de faire valoir l'attractivité de l'université au travers du sport. En fait, on s'est rendu compte, et c'est un des sujets qui ont été abordés aujourd'hui lors du congrès, on se rend compte qu'à l'international, les universités et les services des sports travaillent sur l'attractivité des universités. C'est-à-dire qu'en fait, sur les plaquettes, plus ou moins toutes les universités ont des plaquettes qui sont plus ou moins identiques. Et en fait, ce qui fait la différence, ce sont les à côté. C'est la vie sur le campus, c'est ce qui se passe après les cours. Donc nous, on a fait ce choix de jouer la carte de l'international, puisque nous avons 20% d'étudiants étrangers à Lille. Et en fait, l'attractivité, c'est oui, la qualité des études, des labos, etc. Mais c'est aussi la vie qui est à côté, le sport, la culture, etc., évidemment. Donc c'est pour ça qu'on s'est investi sur l'ENAS pour aller un peu voir ce qui se passe ailleurs, prendre des idées, comparer, voilà.
Alors c'est vrai que si on prend par exemple le cas d'université américaine, il y a de grandes équipes sportives étudiantes. Est-ce qu'en Europe ça existe également ?
Beaucoup moins, beaucoup moins. En fait, c'est lié aussi à l'organisation du sport. La structure du sport en France en particulier est très différente de la structure sportive aux États-Unis. Donc, faut surtout pas comparer avec les États-Unis parce que c'est pas comparable. C'est un système, c'est une structure, qui est une hiérarchie, des pyramides qui sont différentes. Nous, on a en France, il y a le sport fédéral d'un côté, le sport universitaire de l'autre, bon, qui véhicule des valeurs et qui permet malgré l'aspect compétitif aussi, parce que bon, le sport à l'université, c'est pas que de la compétition, ça véhicule des valeurs autres que la compétition. Nous, on travaille aussi sur la compétition, évidemment, mais on travaille aussi sur des valeurs liées au sport, sur la convivialité. J'aime à dire que sur le campus, nos étudiants se croisent au Resto U et au sport. Sinon, ils restent cloisonnés dans leur composante, dans leur spécialité. Donc, on est un élément de lien social, de développement au niveau du relationnel. On est très attaché à ça au service des sports.
Le territoire de Lille est doté de beaux équipements ?
Alors oui, nous avons effectivement hier soir on a fait visiter ce qu'on avait de plus beau évidemment, ça va s'améliorer dans les années à venir puisqu'il y a un gros projet en cours de rénovation surtout sur l'espace du COSEC. Oui, nous avons des espaces sportifs qui sont intéressants. Nous avons surtout une offre qui est très très large en nombre d'activités, en termes de créneaux, en termes de formules. Nous, on s'appuie sur trois piliers. On a la formation, donc les cours, les élèves qui vont venir en cours pour être notés, parce que ça fait partie de leur crédit, de leur plaquette. On a l'aspect compétition avec l'association sportive, et on a tout l'aspect animation, événementiel, qui lui met de la vie, entre guillemets, met le feu sur le campus très régulièrement, sur des grosses manifestations. Donc on joue sur ces trois piliers qui sont complémentaires, hein. Il y a des synergies qui se font entre les différents piliers.
Donc vous parlez de notation, est-ce que dans les universités européennes on note encore les étudiants pour le sport ?
Alors, c'est là qu'a été notre grande surprise quand on est arrivé dans cette structure, c'est d'aller, bah, évidemment, d'aller regarder ce qui se passait ailleurs, ce qui se faisait. Et c'est vrai que surtout chez les anglo-saxons, quand on dit que nous, on note, ça fait rire, quoi. Parce que eux, le sport est complètement sorti des plaquettes, des ECTS, etc. Et ils fonctionnent plus sur un mode associatif et puis sur un mode loisir. Sport loisir, sport détente, etc. Donc nous, on est à cheval, on est un peu atypique au final, parce que on se rend compte que les Allemands sont encore eux aussi un peu sur la notation, mais beaucoup moins que nous, plus sur l'animation, sur l'événementiel. Les Hollandais, les Belges sont sur l'événementiel également. Les Suisses, par contre, on a discuté avec des Suisses qui eux, étaient intéressés, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les entreprises étaient demandeurs de gens qui s'investissaient au niveau associatif, au niveau sportif, des gens qui étaient de futurs managers, des gens qui ont, entre guillemets, de la niaque, hein, de l'esprit conquérant, l'envie de gagner, etc. Et donc, c'est un peu sur les mêmes attentes que nous, en disant que bon, bah, le sport, ça apporte un plus.
Alors, effectivement, est-ce qu'on peut à long terme garder des spécificités, j'allais dire, locales, ou est-ce que l'européanisation des études fera que vous devrez passer, l'un comme d'autres universités françaises, dans l'esprit un petit peu sport-loisir? Et est-ce que ça peut changer aussi la donne en termes de propositions quant à ce qui est donc la palette de ce que l'université propose aux étudiants?
Mais nous, Français, on est très attachés quand même à l'aspect formation, parce qu'on considère que la pratique du sport, ça n'est pas que de la transpiration et du défoulement. On apporte notre pierre à l'édifice dans un processus de formation plus global. Hein, on forme des individus, on forme des citoyens. Et bon, c'est un peu récurrent comme argument, mais le respect des règles, l'envie de se dépasser, bon voilà, c'est formateur. Et force est de constater que nos étudiants qui s'investissent sont aussi des étudiants qui réussissent. Et la meilleure preuve, c'est que dans toutes les écoles d'ingénieurs en France, et particulièrement sur notre campus, on se rend compte qu'ils valorisent énormément le sport et qu'ils les obligent à un investissement associatif, parce qu'ils se rendent compte que l'investissement associatif, le sport, c'est formateur, ça véhicule des valeurs, et que quand ils font leur stade de réussite, ils se rendent compte que c'est pas obligatoirement les majeurs de promo qui ont les meilleures places, et que c'est parfois les gens qui ont su s'investir dans le milieu sportif, qui savent parler en public, qui savent gérer des gens, qui savent motiver des gens, qui réussissent dans le milieu professionnel.
Donc le sport à l'université, ça représente combien de temps, du moins le sport qui est validé en termes de notation ?
Ça représente la majorité de notre temps, hein. Tout ce qui est associatif, tout ce qui est sport associatif et événementiel, on en parle beaucoup parce que bon, c'est plus médiatique, c'est grâce à ça qu'on fait notre vitrine. Mais notre fonds de commerce, le pilier de notre travail, c'est la formation encore, hein, au niveau français. Hein.
Et au point de vue des étudiants, ça représente combien de temps horaire
de pratique
hebdomadaire, par exemple?
Ah, les étudiants, quand ils pratiquent le sport, c'est des créneaux de 2 heures. Mais y a des gens qu'on voit plusieurs fois dans la semaine, hein, qui viennent en cours, qui viennent dans le cadre de l'association sportive et qui profitent de la gratuité pour s'initier à un nombre de sports. Bon, on propose de la boxe, du judo, du jiu-jitsu, du golf, de la natation, de l'escalade, etc. Ces choses qui sont intéressantes, qui n'ont pas eu dans leur cursus scolaire au préalable. Ils découvrent le tir à l'arc, par exemple. Donc, y a la musculation aussi qui a beaucoup de succès. La Zumba aussi, en ce moment, avec les demoiselles, qui a pas mal de succès. Donc, il y a une offre qui est vraiment très, très variée et qui coûte rien, quoi. Donc, c'est appréciable.
J'imagine, comme vous le disiez, hein, qu'un lycéen qui arrive à l'université et qui aime un peu le sport, hein, il a un environnement extraordinaire pour lui. Il découvre la possibilité de tester. En plus, ça ne doit pas coûter cher, forcément.
Non. Par contre, sur le prix, sur la question du coût, justement, à l'étranger, effectivement, parfois, on est bluffé par les installations. On est allé l'année dernière en Irlande, on était scotché. Chaque année, plus ou moins, on est un peu scotché par ce qui se fait à l'étranger. Mais quand on regarde le coût pour l'étudiant, là, par contre, les cours sont gratuits, évidemment, parce que tout ce qui est formation, c'est gratuit. Bon, pour l'association sportive, ils doivent prendre une licence. Ça leur coûte 10 euros. L'université prend en charge les 25 euros restants. Quand les activités de loisirs, il y en a certaines qui sont payantes, parce qu'on fait intervenir des intervenants extérieurs parce qu'on ne peut pas tout faire, c'est un coût qui revient à moins d'un euro la séance. Ce que nos étudiants peuvent payer à l'année ici, ça représente moins d'une cotisation mensuelle ailleurs, quoi, en fait.
On va dire que c'est la même logique que le coût de l'inscription à l'université. Parce que d'autres universités en Europe
sont
très chères.
Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, en France, oui.
C'est aussi ce qui peut intéresser certains étudiants à venir de l'étranger, en France.
Tout à fait, tout à fait.
La gratuité ou presque des études.
Mm-hmm. Ce n'est pas la gratuité, mais bon, quand on voit le coût en Angleterre des études, aux États-Unis, on n'en parle même pas. C'est un atout. Bon, après, il ne faut pas que ce soit au détriment de la qualité non plus, quoi. Il faut trouver le bon compromis. Hein.
Alors, quels sont les sports qui ont le vent en poupe, on va dire, qui attirent le plus les nouvelles générations d'étudiants? Est-ce que vous arrivez à vous mettre à la page? Et avec qui? Quel personnel vous allez former à ça?
Tout à fait. Donc là, il faut qu'on se renouvelle en permanence parce qu'on voit arriver de nouvelles activités. Il y a quelques années, j'ai proposé la Zumba, en sachant pas trop ce que c'était, on va dire. Et puis, ça a fait un carton d'entrée. Et depuis, c'est Zumba, Zumba, Zumba. Ça marche très fort au niveau des demoiselles. Et les activités qui marchent le mieux, c'est la musculation. Ça, on pourrait ouvrir la salle 24 heures sur 24. C'est une folie. Le badminton, ça marche très, très bien. C'est un sport où il y a une grosse dépense énergétique. C'est très ludique. Très abordable aussi techniquement, on peut jouer tout de suite, hein, il y a des activités qui sont techniquement difficiles. On a développé depuis un an ou deux toute une palette d'activités autour du combat, donc le judo, le jujitsu, jujitsu fighting, la boxe française de savate, le karaté, le kung-fu. Pour les gens qui aiment les sports d'opposition, bon après traditionnellement il y a toujours les sports collectifs, hein, évidemment, et tout ce qui tourne autour de la forme, c'est assez prisé, hein, soit le fitness. Alors on a développé aussi ce qu'on appelle les pratiques de bien-être, donc c'est des pratiques où il y a un peu de cardio, un peu de renforcement musculaire, des étirements, enfin ce sont des choses qui sont assez appréciées des demoiselles.
Alors si on parle des sports d'équipe maintenant, est-ce que ces sports peuvent mobiliser beaucoup de personnes et aussi être l'occasion de rencontres régionales, nationales, voire là européennes? Est-ce que vous allez négocier les rencontres futures?
Oui, tout à fait. Alors les sports collectifs, ça draine énormément de monde. Hein, le football, on a des sections de foot extérieur, de foot en salle, section rugby, section handball, masculin-féminin, rugby féminin également, volleyball, basket. Donc en début d'année, il y a les cours évidemment, et puis il y a aussi l'association sportive. Hein, les collègues sont obligés de faire des sélections. Sinon, bon, c'est les entraînements seraient ingérables vu le nombre. Hein, donc, ils sont obligés de faire des sélections et de réorienter les gens après sur d'autres cours, etc. Et effectivement, donc, on concourt en championnat au niveau régional, interrégional, parfois national quand ça se présente bien. Et puis, ben, au niveau européen, je suis à l'initiative depuis donc, cette année, nous allons faire notre 5e édition du tournoi européen qui se passe en avril chaque année. Et qui regroupe 10 activités. Et dans ces activités, justement, on parlait d'activités nouvelles. J'y ai intégré deux activités un peu atypiques, qui sont le King Ball. Alors le King Ball, c'est un sport qui est assez nouveau, qui a une dizaine d'années, pas plus, hein, qui nous vient du Canada. Ça se joue avec un ballon qui fait 1,20 m de diamètre, et il y a trois équipes sur le terrain. C'est assez atypique, ça se joue sur un terrain qui fait 20 m/20 m. Et petit à petit, on l'a inscrit au tournoi européen, et au final, bon, on l'a intégré dans certains menus d'écoles d'ingénieurs comme le NSCL et Polytech, je crois. Et ce qui fait que bah, les élèves bon, prennent goût parce que c'est nouveau et puis qu'il y a un attrait aussi. Voilà. Et deuxième activité aussi qu'on a intégrée, c'est l'Ultimate Frisbee. Donc en fait, faut imaginer un sport collectif où à la place d'un ballon, c'est un frisbee. Voilà. Et c'est... c'est assez amusant aussi, effectivement, et on développe ce genre d'activité et à l'université et dans le tournoi européen.
Alors Jean-Marie Carlier, je rappelle à nos auditeurs qu'en ce moment a lieu cette 17e conférence de l'école de l'European Network of Academic Sports Services. Et donc, dans ce cadre-là, il y a des échanges. Peut-être aussi, il y a des conventions qui vont être signées, des choses qui vont être concrétisées.
Non. Là, c'est uniquement, ce sont des directeurs de services, des enseignants qui viennent et qui... Alors, il y a des intervenants qui viennent sur la thématique. Cette année, la thématique, c'est sur l'innovation. Donc, des intervenants qui viennent faire des présentations. Après, il y a des ateliers de réflexion en petits comités, dans des petites salles. Et l'idée, bah, c'est de produire une réflexion, puis surtout de faire des échanges. En fait, je disais tout à l'heure, on a été étonnés parce que bon, le français, il est un peu cocorico. Hein, on a toujours tendance à penser que ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein, c'est un peu la mentalité française. Et puis quand on va voir ce qui se passe ailleurs, on se dit, ah ben au final, bon, les voisins, ils font des choses sympas aussi. Donc il y a des choses à apprendre. Et après, en termes d'organisation, c'est vraiment très différent. Parce que des fois, je discutais avec un Anglais l'année dernière de Cambridge, quoi. Et je lui disais, bah, écoute, il faudrait que tu viennes à notre tournoi en rugby. Vous avez des équipes de rugby. Il me dit, bah, oui, bien sûr, on doit en avoir. Il faudrait que j'en parle. En fait, le gars, c'est un manager, c'est un directeur. Et il n'a plus les pieds sur le terrain, quoi, en fait. Hein, il a délégué et puis ça travaille. Alors que nous, la différence, c'est que nous, je suis directeur du service des sports, mais il me reste pas mal d'heures d'enseignement dans la semaine qui fait que je garde les pieds sur terre et le contact avec les étudiants. Chose que n'ont plus certains collègues qu'on rencontre au congrès qui sont vraiment des administrateurs et des managers. Ce qui fait qu'après, ils ont bon, des visions un peu différentes de l'organisation. Parfois, justement, à l'anglo-saxonne, quelque chose de très... on optimise les moyens, etc., etc. Nous, on aurait plutôt tendance à conserver des enseignants qui vont véhiculer des contenus, des valeurs, etc. Alors que, par ailleurs, bon, on pense plus gestion pure et dure. Et ça donne des orientations, au final, très différentes.
Je suppose que certaines universités étrangères font appel à des sociétés extérieures pour gérer le sport, ça doit aussi se faire comme ça. Et en France, on garde les personnels de l'université.
Voilà, tout à fait. C'est le souci, hein, notre souci, puis je pense que c'est le souci de tous les collègues français, hein, c'est de garder une structure qui va tourner autour des enseignants. En fait, notre leitmotiv, on va dire, même si plus localement on pourrait ramener ça à l'échelle de Lille, c'est-à-dire par rapport à la future fusion entre Lille 1 et Lille 2, Lille 3, notre combat, c'est de garder notre identité. Bon, à l'intérieur de cette fusion, mais au niveau national, voire au niveau international, on a des valeurs à faire valoir sur lesquelles on est attaché, et il n'est pas question qu'on adopte. Enfin, il n'est pas question. On verra ce que l'avenir fera de nous, mais on a envie de garder nos valeurs, nos spécificités et pas copier un système, quoi, en fait.
Bien sûr. Alors, on parle de l'île 1, l'île 2, l'île 3, mais on peut imaginer aussi que des facultés privées qui seraient intégrées à ce genre d'environnement ont aussi des particularismes de fonctionnement.
Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est...
Donc là, voilà, trouver la quadrature du cercle.
Tout à fait.
En tout cas, bon courage. On va dire que ce congrès, cette conférence de l'ENAS 17e du nom a lieu jusqu'au vendredi. Hein. Ça reste privé hein, comme événement, bien sûr.
Oui, oui, oui.
Alors, c'est vrai que le sport est un langage, on peut dire, universel. Vous parlez en quelle langue, par contre, vous, dans vos échanges?
Ah voilà, ça c'est la question piège. Effectivement, alors curieusement, l'ENAS a été créé par un Français. Mais la langue officielle du congrès, c'est l'anglais. Et une des motivations pour l'INAS, parce que nous, c'était pas notre but, mais d'organiser à Lille, c'était de motiver les universités françaises qui participent très peu à l'INAS, qui participent ponctuellement, mais qui n'y restent pas, parce que le français est bien connu et très mauvais en langue. Les Allemands parlent très bien anglais, les Belges aussi, les Suisses parlent trois langues, voire quatre, avec l'allemand, l'italien, l'anglais et le français. Les Anglais, ils parlent très bien anglais. Et nous, on est les vilains petits canards qui avons du mal à communiquer parce qu'effectivement, la culture française fait que peut-être on a l'impression d'être le centre du monde et que parler français, ça suffit. Et là, oui, effectivement, vous avez posé un vrai problème. C'est difficile, c'est difficile. Tout est en anglais.
Cette conférence a pour thème « Innovation Maximizing Your Potential ».
Yes.
Thank you, Mr. Carlier. Et bonne journée et bonne continuation dans le sport à l'université, Lille 1 notamment.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir.